des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Les derniers sondages le montrent, la part des Français qui se disent sans religion a dépassé les 50% de la population. Par religion, nous entendons aussi sa forme institutionnalisée. On va alors parler de pratiquants. Or, malgré ce désaveu, qui pourrait dire que le sacré et le religieux ont disparu de nos sociétés? Les monuments chrétiens comme le Mont Saint-Michel ou notre cathédrale de Chartres attirent des foules de pèlerins comme de touristes du monde entier. Et toutes les recettes de développement personnel qui fleurissent depuis des décennies font appel aux sentiments religieux de nos contemporains. Alors, quelle est la place du sacré dans nos vies? Le sacré, deuxième partie en compagnie du docteur Dominique Demichel. Dominique Demichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Dominique Demichel, nous allons tenter de définir le sacré, ce qu'il représente aujourd'hui. Son lien aussi avec le religieux, nous en avons parlé la semaine dernière, mais nous y reviendrons. Ce mot sacré, pour commencer, il a quelque chose d'universel.
Voilà, c'est intéressant de noter que ce mot existe dans, semble-t-il, hein, en tout cas dans ce que j'en ai lu, dans pratiquement toutes les langues du monde, avec des variantes probablement importantes, mais qui comportent toujours une sorte de contenu, de corpus très similaire, au fil des différents pays de notre planète, et même probablement au fil du temps. On va revenir après sur comment définir le sacré. Par contre, le mot religion, c'est un mot latin, on en a parlé la semaine dernière un petit peu autour de religare et religere. C'est un mot latin qui n'a nulle traduction, même approximative, en grec ancien. Ça n'existe pas, il n'y a pas de mot là, comme ça. On ne le voit pas en hébreu, ni en arabe, ni en persan, ni en chinois. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui émerge de très très particulier. Et vous aviez bien, la dernière fois, souligné la différence entre ce religieux qui renvoie à un contenu et à un processus, du côté de relire ou se relier, en tout cas relire quelque chose de sa vie ou se relier, et puis de l'institution religieuse, qu'elle soit celle de l'Église ou que ce soit dans les autres religions, même monothéistes. Donc c'est important. Et le mot « sacré », c'est important, ça vient du grec « hieros », et « hieros », ça veut dire « fort, puissant, vivifiant ». On retrouve l'étymologie de ce mot dans « hiérophanie hein, ». Voilà, on dit que la Pentecôte, par exemple, est une hiérophanie du divin ou de l'esprit, hein, de l'esprit du divin, c'est-à-dire une manifestation du « hieros », c'est-à-dire du sacré. Ou « hiéroglyphe », tout le monde connaît les hiéroglyphes égyptiens, par exemple, c'est-à-dire les glyphes, c'est l'écriture sacrée. Ou les hiérogamos, on trouve ça, c'est les mariages sacrés, on trouve ça d'ailleurs en Égypte aussi. Isis et Osiris sont des frères et sœurs, et il s'agit là d'un mariage sacré.
On entend quasiment une puissance vitale dans cette définition du mot sacré. Puissance vitale liée à la nature, liée au cosmos.
Voilà, tout à fait. On va y revenir après, mais vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, c'est-à-dire... On a vu tout à l'heure que sous ces objets, que ce soit des lieux, des situations, des rencontres, etc., sacrés, ils sont toujours porteurs d'une valeur. Ils sont porteurs de quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important, que je vais redéfinir un petit peu plus tard comme étant du côté du lumineux.
Alors, docteur Dominique Demichel, on peut dire qu'il existe plusieurs sacrés, un sacré d'ordre et un sacré de communion. Expliquez-nous ça.
Alors ça, c'est une différence qui me semble très, très intéressante à travailler. Et je dois dire que je l'ai entièrement puisée dans le travail de Régis Debray dans son livre « Genèse du sacré » qui est paru chez Gallimard en 2011. J'invite bien les auditeurs à bien écouter ça parce que ce sacré d'ordre et ce sacré de communion, il est radicalement différent. Il se manifeste dans des espaces différents et surtout, il a des conséquences dans l'expression, le ressenti, le vécu, l'épreuve autour du sacré. Alors, le sacré d'ordre, c'est celui que nous rencontrons dans des lieux qui, au fond, vont contenir en eux-mêmes un lien avec une hiérarchie, avec un pouvoir ou avec une institution. J'aime bien donner des exemples tout simples. je ne suis jamais allé dans le palais de l'Élysée, mais j'imagine que quand, si j'y vais et que j'y rentre pour la première fois, je vais être un peu saisi de quelque chose, hein, que j'appellerais quand même volontiers une forme de sacralité laïque. J'y suis allé il y a quelques années, me retrouver devant le mur des lamentations, enfin dit des lamentations que tout le monde connaît, que j'avais déjà vu à la télévision, et d'ailleurs m'apercevoir que c'était tout petit, minuscule, et que la mosquée, elle est juste au-dessus, voilà, ça, là aussi, ça renvoie à un éprouvé qui, me semble, renvoie au sacré. Se retrouver seul, par exemple, toute une nuit dans une cathédrale, je ne sais pas si je devrais l'avouer ici, mais je me suis laissé une fois enfermé dans une cathédrale pour y passer la nuit, et voilà, c'était en été, il y avait un petit peu de lumière ou un peu de nuit, et voilà, c'est aussi une expérience particulière. Et j'imagine, ça ne m'est jamais arrivé, que rentrer dans un tribunal pour la première fois en se disant qu'on va être jury d'assises, ça vous saisit dans quelque chose où on sent bien que là, il y a une valeur puisqu'on va juger un individu. Et en plus, si c'est un jury d'assises, le plus souvent, c'est pour un meurtre, un assassinat ou quelque chose d'une particulière gravité. Et puis, de temps en temps, il y a des rencontres. La grande dame de Rangoon, voilà, Aung San Suu Kyi, qui a perdu un petit peu de sa superbe depuis, voilà. Nous l'avions rencontrée lorsque nous sommes allés en Birmanie, tout à fait, quasiment par hasard. Et donc, j'ai pris des photos d'elle à 2 mètres. Voilà, cette figure à l'époque, qui était quasi une figure iconique, charismatique.
Rayonnée. Enfin, rien que sur les photos, on voyait quelqu'un de rayonnant. Quoi.
Voilà. Et bon, ça fait une expérience, vous voyez, très, très, très particulière.
Et ça, c'est par rapport à la hiérarchie, quelque chose qui est au-dessus de qui nous dépasse. Quoi.
Voilà, c'est un sacré d'ordre. Le sacré de communion, c'est tout à fait autre chose. Ici, ce n'est plus le contenu, on pourrait dire, symbolique, préattribué à un lieu, qui se pose comme sacré. C'est une relation, c'est un échange, c'est une proximité, c'est une fraternité, c'est une communion, d'où le mot qu'emploie Régis Debray. C'est-à-dire que ce qui va faire la sacralité, c'est que c'est accompagné d'affects, de sentiments. Et celui qui, à ce moment-là, sent une expérience sacrée, il lui donne une grande importance et une valeur, au fond, existentielle. On a tous, dans notre vie, eu de ces moments, que moi j'appelle des moments sacrés, où on a rencontré des personnes qui ont fondamentalement compter dans notre vie. Alors, de temps en temps, c'est notre premier amour, de temps en temps, c'est une figure d'enseignant, de temps en temps, c'est une figure d'amitié. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose qui dépasse, j'allais dire, l'immanence d'une relation humaine, qui renvoie à quelque chose de beaucoup plus vaste que je vais essayer de définir un petit peu tout à l'heure, et qui est surtout et avant tout marqué par l'énigme en même temps que la puissance émotionnelle, affective d'une rencontre.
On parle là de relations donc, qui vont être personnelles, et évidemment, la même personne ne va pas faire le même effet sur plusieurs personnes. On est d'accord.
Voilà, oui, tout à fait. Alors, on peut se dire d'ailleurs que cette rencontre-là, elle se situe avec une personne extérieure, mais de temps en temps, elle peut se faire avec une personne intérieure, voire peut-être directement avec le divin. Mais là, évidemment, on voit bien ici que ce n'est pas le divin qui nous convoque et qui nous envoie une sorte de révélation. C'est à ce moment-là, on vit une expérience qu'on pourrait qualifier de mystique. Je rappelle que l'étymologie de mystique, c'est quand même le mystère. Donc une expérience mystique, c'est une expérience mystérieuse, énigmatique, qui fait qu'on va rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Et c'est vraiment quelqu'un.
Alors, docteur Dominique Desmichel, n'y a-t-il pas, du coup, malgré tout, des niveaux de sacré? Je m'explique. Est-ce que le Stade de France est aussi sacré que Notre-Dame de Paris? Est-ce que rencontrer mon voisin qui va me dire quelque chose de très profond a le même niveau de valeur que si Dieu m'apparaissait soudainement dans cette pièce? C'est compliqué, hein.
Enfin, c'est compliqué parce que j'aurais envie de dire au premier degré entre le stade de foot et puis un grand lieu sacré, probablement pas. Et en même temps, on peut se dire que probablement, du côté d'une petite sacralité de communion, il pourrait y avoir une sorte d'effet collectif qui vient ici faire une expérience. J'allais dire, avec probablement des conditions que j'ai un petit peu mal, vous me prenez un peu au dépourvu là, à définir, mais que peut-être au fond, une sorte d'élan collectif qui vient donner non pas le plaisir de voir le match de foot, mais le bonheur d'être ensemble, vous voyez, c'est pas la même chose, peut à ce moment-là comporter une part de sacralité. Voilà.
Ah non, je ne disais pas que le Stade de France ne pouvait pas être sacré, mais est-ce qu'il y avait des niveaux de valeur entre ces différents sacrés ?
Vraisemblablement, il y a quand même des niveaux de valeur. Mais que probablement, ces niveaux de valeur sont aussi personnels, individuels et variables suivant l'âge que l'on a. Hein. Alors, d'ailleurs, à ce propos-là, je pense que c'est important de dire que ce premier ordre, c'est-à-dire ce sacré d'ordre, il est de type vertical. C'est-à-dire, au fond, il préexiste à la rencontre. Il préexiste au moment où on va faire l'expérience du sacré. Je sais que si je vais à l'Élysée, je risque d'avoir un petit peu, peut-être, le ventre un peu serré, peut-être pas, enfin, voilà. Mais quelque chose, en tout cas, de cet ordre. Donc, ça préexiste. C'est le lieu lui-même et ce qui lui est attaché symboliquement, souvent du côté d'une valeur et, par exemple, du pouvoir, qui dicte à celui qui l'éprouve sa propre sacralité. Donc, c'est une sacralité verticale, descendante, et qui, certes, peut être tout à fait partagée. Et puis, il y a des gens qui vont trouver qu'aller à l'Élysée, le jour des portes ouvertes là, du patrimoine, ça ne leur fait rien du tout, ils vont prendre 3 photos, et puis voilà, hein, c'est un peu variable.
Enfin, néanmoins, c'est le but même premier de ces lieux-là, et c'est les raisons pour lesquelles ils sont si grandioses.
Oui, oui.
C'est justement pour impressionner le visiteur, et pour bien lui faire comprendre soit son insignifiance, soit... autre chose, mais enfin, en tout cas, ça met les choses à leur place, quoi. La Galerie des Glaces à Versailles, exactement. C'était exactement ce but-là, voilà. Me semble-t-il. Ouais.
Je repensais exactement ce même exemple, même si je n'ai pas beaucoup de compétences, mais où, bien évidemment, la légitimité du roi Louis XIV, qui a quand même régné, je ne sais plus de 70, 72 ans, je crois, il la tenait évidemment du divin. Donc là, il était dans une sacralité d'ordre. Hein, voilà, une sacralité d'ordre. Le second, c'est d'ailleurs la sacralité de communion. J'invite bien les auditeurs à écouter ça parce que je trouve que pour comprendre en particulier la problématique autour de la figure contemporaine du clerc et du prêtre en particulier, c'est intéressant de reprendre. Le second, le sacré de communion, il est horizontal parce qu'il se déploie entre deux personnes le plus souvent. C'est-à-dire il est porteur, il est chargé d'une subjectivité ou je dirais d'une intersubjectivité. C'est donc une rencontre avec une femme, avec un homme, qui vont déterminer ou influencer durablement une vie. Et cette confrontation, cette intersubjectivité, elle est de nature existentielle, c'est-à-dire elle renvoie à quelque chose qui est transcendant, malgré cette dimension extrêmement horizontale, et c'est cette transcendance qui ouvre à cette sacralité. Comme je le disais tout à l'heure, hein, cette sacralité de communion, elle peut se vivre à l'intérieur de soi-même, dans l'expérience mystique, dans le recueillement, dans la prière, par exemple. Hein. Tout le monde sait bien, par exemple, que même s'il n'a jamais prié, dans un lieu où il va y avoir un événement tragique, il va se mettre dans cette disposition intérieure de prier. Au fond, il n'appellera pas ça prière, il appellera ça intériorité, recueillement, respect, silence, accueil, ouverture. Mais il y a quelque chose, on va appeler ça globalement la prière, c'est-à-dire une relation entre soi et soi, et puis soi avec quelque chose qui nous dépasse.
Une mise à disposition de ce que l'on est, peut-être un certain bâillonnement de notre moi et de nos pensées pour s'ouvrir à quelque chose qui nous dépasse. Oui, voilà. Ça, on en fait tous une fois ou l'autre l'expérience, me semble-t-il.
Voilà. Donc dans la sacralité de communion, il y a une charge émotionnel, intersubjectif. Voilà, il y a une charge de valeur. Et celui qui l'éprouve est mis en contact avec du numineux, ce mot numineux, pas lumineux, mais numineux avec un N au début. Je vais y revenir. Dans l'introduction, d'ailleurs, dans votre introduction de la semaine dernière, vous parlez de Mircea Eliade, qui, avec Rudolf Otto, a repris cette notion de lumineux.
Docteur Dominique Desmichel, alors au fond, le sacré survient au moment les plus intimes de notre existence. La naissance d'un enfant, c'est sacré. La mort, c'est évidemment sacré. Le sacré est-il une réponse, et si oui, de quelle sorte, au grand questionnement de l'humanité ?
Je ne dirais pas que le sacré, c'est une réponse, non. Peut-être le religieux, en tout cas, prétend répondre. Le sacré, c'est une expérience. C'est une expérience et je ne crois pas, au fond, qu'il apporte une finalité. Quand nous interrogeons les étoiles, par exemple, parce qu'on est au mois d'août, qu'on est allongé dans l'herbe, n'y a pas de lampadaire, et puis on est devant cette, ce ciel dont on sait que ça remonte à 13,8 milliards d'années. Quand on s'interroge en se disant « Mais d'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai eu une vie juste ?» hein, en particulier lorsqu'on se prépare à mourir. Alors, on s'interroge sur ces questions-là. Mais peut-être aussi, il y a toutes ces choses qui nous agrippent quand on est dans ces lieux sacrés dont on a parlé. Je me souviens très bien être allé chez les Dogons et avoir été extrêmement, extrêmement impressionné par ce peuple. Mais peut-être que quand on est devant des mégalithes en Bretagne, à Stonehenge, peut-être sur l'île de Pâques, ou devant l'art pariétal aussi, du néolithique ou de bien avant du paléolithique. Voilà. Et d'ailleurs, dans une certaine mesure, c'est peut-être finalement le silence de la nuit qui couvre au fond la campagne et qui couvre nos cœurs et nos esprits d'une sorte de grand manteau d'incertitude qui nous ouvre finalement au sacré. Ou quand peut-être également des sortes de grandes puissances, on pourrait dire archétypiques, que ce soit les ancêtres, que ce soit les esprits, hein, l'esprit du lieu hein, aussi, mais de temps en temps aussi toutes ces voix à l'intérieur de nous-mêmes, que ce soit celles de nos grands-parents ou de temps en temps d'inconnus, viennent nous parler, ou parfois quand on a l'impression que le divin ou Dieu voilà, en personne vient nous parler à l'oreille. Vous évoquiez tout à l'heure la question « et si Dieu entrait dans la pièce ?» Mais je trouve que c'est pas une question futile, c'est pas de l'humour, c'est aussi, on peut penser qu'il se passerait quelque chose si évidemment cette question a du sens. Et puis de temps en temps, c'est la musique, c'est l'art, c'est un accouchement, c'est le sourire d'un mourant, c'est une parole réconfortante voilà, qui nous ouvre à quelque chose qui est de l'ordre de ce sacré.
Alors le sacré, docteur Dominique de Michel, c'est donc ce qui est inaccessible, qui est donc indéfinissable. Si c'est indéfinissable, c'est-à-dire que ça ne va pas apparaître au niveau de l'intellect, mais au niveau du cœur, au niveau du sentiment.
Voilà, on ne fait qu'une expérience du sacré. On ne réfléchit pas sur le sacré. Là, je vous donne des discours, mais vous en saurez probablement pas plus en profondeur sur le sacré. Vous saurez les idées qu'on peut dire autour du sacré. Mais le sacré, juste, ça s'éprouve. Il y a ce proverbe zen que j'aime bien qui dit « Le lieu le plus obscur est toujours sous la lampe ». Qu'est-ce qu'au fond ça veut dire ça? C'est-à-dire que c'est beaucoup aussi une question de disponibilité. Hein, tout à l'heure, vous évoquiez la question d'ouvrir quelque chose à l'intérieur de soi-même pour accueillir un drame ou pour accueillir un événement heureux. Donc on pourrait se dire que là, c'est une question de regard. Et en tout cas, accueillir ce sacré de communion relève d'une capacité d'ouverture à l'intérieur de nous-mêmes, d'attention, de ressenti. Je le redis, le sacré, il s'éprouve et il ne se prouve nullement. L'expérience du sacré, en effet, renvoie à quelque chose d'indicible, avec presque une sorte de vertige qu'on peut ressentir devant les étoiles, comme je disais tout à l'heure, mais aussi de temps en temps, par exemple, par rapport à une perspective de sens. J'ai compris quelque chose dans ma vie. J'ai compris pourquoi j'ai pu faire ceci ou cela, ou en quoi, voilà. Là, on est relié dans le sens du religieux, là, on pourrait dire, et on fait, il me semble, une expérience du sacré.
Alors, le sacré indicible, et qui pourtant a été mis en scène, comme vous l'avez dit, par le religieux. Et là, on peut se tourner quand même vers des textes comme la Bible ou comme les mythologies, qui sont des récits qui mettent en scène le sacré, oui. Et ça peut quand même nous permettre de comprendre, d'approcher le sacré par ces biais-là.
Oui, vous avez tout à fait raison. Hein. Le sacré, il est associé à une culture, au fond. Il est associé à un contenu, il est associé à une mythologie, une tradition. En même temps, on ne sait pas trop. On peut penser que, finalement, ça serait cette expérience du sacré qui ouvrirait à une mythologie. C'est-à-dire, au fond, j'imagine que l'homme, par exemple, qui n'a pas encore découvert la possibilité de faire du feu et qui voit la foudre qui tombe sur un arbre, qui enflamme l'arbre et qui se dit qu'après, il va pouvoir récupérer le, le feu, pour l'utiliser, pour se chauffer, pour cuire les aliments, pour se défendre contre les animaux, et en plus pour en faire un symbole de transcendance, hein, avec la flamme par exemple, ou la crémation, on peut penser que cet homme, à ce moment-là, pas, il fait une expérience du sacré, et peut-être il se dit, mais peut-être tout là-haut, il y a un autre que moi, voilà, et qu'au bout d'un certain temps, il a peut-être appelé cet autre-là, radicalement autre, comme vous le disiez,
oui, et c'est la, le divin. La naissance des dieux uraniens, comme le rappelle voilà. Michel Liade dans son introduction, voilà. De son histoire de religion, l'homme de caverne qui se regarde les étoiles, automatiquement, voilà. En tout cas naturellement, ouais. Je ne saurais quel mot utiliser, ouais. Va faire cette expérience du sacré, et après cette expérience du sacré, va y mettre des mots, et ces mots vont être ceux de la mythologie, de la religion, des dieux, etc.
Oui, je crois que c'est tout à fait intéressant que vous repreniez l'idée de y mettre des mots. Hein. Je crois que c'est tout à fait important.
L'idée du récit qu'on retrouve beaucoup dans le judaïsme. Voilà, la Bible, c'est d'abord un récit. Il faut d'abord raconter une histoire.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et je vous rappelle aussi que dans le texte de la Genèse, par exemple, hein, toutes les créatures sont créées par Dieu, mais elles n'ont pas de nom.
Eh oui.
Dieu demande à l'humain de nommer. Tu vas nommer celui-là. Et tu vas nommer le ciel, la terre, tu vas nommer les animaux, tu vas nommer tout ça. Donc, en effet, je trouve que c'est tout à fait intéressant ce que vous rappelez autour des mots.
En rappelant qu'il n'y a pas qu'un seul récit, mais justement plusieurs récits. Il y a bien 4 évangiles, plusieurs récits pour raconter la même histoire. On dit que le récit n'est pas enfermant, n'est pas englobant d'une vérité, comme vous l'avez rappelé. Docteur Dominique Desmichel, le sacré, c'est ce qui désigne l'inaccessible. Alors, on est à la fois fasciné et terrifié, et c'est bien le but de la philosophie et des mythologies, de faire trier entre le chaos et le cosmos, d'ordonner la Terre, d'ordonner l'univers en tout cas.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors on peut renvoyer peut-être aux émissions où on a réfléchi ensemble sur beaucoup de mythologies, hein, à partir des contes, à partir d'autres choses. Hein. J'aime bien faire le lien entre le mythe et le conte, hein, voilà. En tout cas, vous avez bien raison, le sacré désigne quelque chose qui est inaccessible et qui est fascinant et terrifiant. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qui est hors du monde normal, qui nous attire énormément, mais qui souvent fait peur. Ce mélange entre les deux a été appelé numineux par Rudolphe Otto dans son ouvrage sur le sacré. Et lui, il en parle en disant que c'est une expérience de mystère, de type pas du tout rationnel, et qui passe par une expérience. Hein. Le sacré s'éprouve. Une expérience sensorielle, une expérience émotionnelle, dont l'objet en particulier se trouve hors de nous-mêmes. Voilà, ça ne nous appartient pas, c'est pas du su et du connu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une charge de valeur, puisque ce numineux va toujours contribuer en profondeur à nous aider à trouver un sentiment d'exister, nous permettre d'avancer dans notre propre identité, et en tout cas, potentiellement, parce que ça donne du sens, on va y revenir un petit peu plus tard, je crois, parce que ça donne du sens à transformer notre destinée, ce qui serait, au fond, une sorte de parcours de vie décidé par les dieux ou décidé par notre histoire familiale ou l'histoire du pays dans lequel on est, notre destin, pardon, c'est le mot destin ici, en une destinée, c'est-à-dire quelque chose où on a eu l'intime conviction d'y mettre sa propre subjectivité.
Alors, même s'il est vécu par des personnes qui se diront sans religion, le sacré suppose ontologiquement la croyance en un principe supérieur. Et pour le coup, un psychanalyste comme Jung et un chrétien protestant pratiquant, comme Jacques Ellul se rejoignent sur cette idée-là du sacré comme principe supérieur.
Oui, d'ailleurs, Jung a fait beaucoup de parallèles entre le soi avec un grand S et puis l'expérience du divin. Hein. Il faut rappeler que voilà, son père était quand même pasteur aussi. Même était,
il savait de quoi il parlait.
Voilà, il savait de quoi il parlait, même si probablement son père avait beaucoup de doutes par rapport à sa propre foi. Donc, vous avez raison, probablement cette expérience du sacré est universelle. Je vous suis tout à fait en disant que le religieux est ce qui va porter cette expérience-là, mais que pour beaucoup de gens, Et en tout cas, moi, j'ai l'impression, en tout cas, de l'avoir senti extrêmement souvent dans ma pratique de l'écoute des patients que je reçois. Il y a une expérience universelle, mais probablement en grande partie inconsciente. Parce que même les gens qui n'ont absolument pas de culture religieuse, par exemple, découvrent le plus souvent le sens du sacré à partir de leur vie ou, de temps en temps, à partir de leurs rêves. Et moi, personnellement, je crois que la spiritualité, le désir, en tout cas, de mettre du sens, est tout aussi pulsionnel que, je sais pas, la sexualité, le besoin de se défendre ou de jouer, de rire et de rencontrer.
On peut s'arrêter un tout petit instant sur ce principe supérieur. Ne rejoigne-t-il pas l'expérience du coup anthropologique de l'être humain, de son insignifiance par rapport au temps et à l'espace? On est un petit grain de poussière dans l'univers, et puis des générations ont vécu avant nous, et des générations vivront après nous. Est-ce que ça a un rapport avec le sacré, le fait de se savoir tout petit par rapport à quelque chose qui nous dépasse?
Vous l'entendriez presque comme une sorte de défense, alors, par rapport à ce côté...
D'expérience, c'est-à-dire quand on prend conscience de cette petitesse, on peut alors s'ouvrir à un principe supérieur, on peut alors s'ouvrir au sacré.
Alors il y a plein de choses dans votre question, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Comment je dirais ça? Le côté minuscule, ou le côté un peu dérisoire, le plus souvent on en fait l'expérience. Hein. On en fait l'expérience à partir du moment, par exemple, où on a un échec, où on a une blessure, où il y a une maladie qui vous tombe dessus, par exemple, on se dit que finalement, on est bien peu de choses. Voilà, on est bien peu de choses. Je pense que ça n'enlève pas, probablement, la valeur, justement, de cette expérience du sacré. Et peut-être même, d'ailleurs, ça y contribue beaucoup,
oui,
finalement.
Hein, c'est ce que vous vouliez dire. Tout à fait.
C'est dans ce sens-là que vous vouliez
C'est-à-dire
dire.
C'est-à-dire que pour pouvoir faire l'expérience du sacré et d'un principe supérieur, il faut commencer par avoir conscience de cette petitesse.
En tout cas, si on est dans une inflation, on pourrait dire, du moi, par exemple.
Exactement.
C'est sûr que
c'est tout à fait ça.
On se suffit à soi-même,
c'est
et probablement cette altérité radicale qui serait portée par le sacré nous est inaccessible.
Surdimension du moi ou bien diversion par toutes sortes de moyens pour mettre cette question sous le tapis.
Voilà. On en reparlera du côté alors du sacrilège et peut-être du sacrifice, hein, qui sont les deux figures, on pourrait dire, que propose le sacré.
Docteur Dominique Demichel, un grand merci, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur notre site internet www.radiograndciel.fr, rubrique des mots pour le dire.
Merci Simon.